Depuis 2007, vous avez pu entendre la voix de Pascal Jourdana dans l'émission À l'air libre. Aujourd'hui, cette aventure s'achève et c'est un tout nouveau rendez-vous qu'il vous propose sur les ondes de Radio Grenouille, intitulé Espace Fine. Davantage qu'une nouvelle émission littéraire, Espace Fine est une proposition de création radiophonique. Esther Salmona, auteure associée, est invitée à occuper l'univers d'écrivains, la plupart hébergés à la Marelle, villa des auteurs de la Friche Belle de Mai, à habiter poétiquement leur lieu, leur voix, leur présence physique, leur texte aussi. À être en quelque sorte en résidence permanente dans l'espace des écrivains accueillis ou dans les blancs de leur espace. À provoquer des rencontres aussi avec la complicité ou la participation des auteurs ainsi occupés, colonisés, phagocytés ou pas. Espace Fine est porté par deux voix.
Esther Salmona,
résidente permanente, et
Pascal Jourdana,
directeur artistique de la Marelle. En cette rentrée, Espace Fine va prendre le temps de s'installer, de chercher son chemin, de tenter des expériences, puis, si tout va bien, de trouver son rythme. Bonne écoute.
Oui, moi je trouvais que c'était pas mal l'idée de dissémination.
Une porosité entre des espaces, tu veux dire?
Oui, quelque chose comme ça.
Qui circule?
Oui, qui contamine, ou qui communique, qui correspond.
Qui se transporte. Transport d'espace. Transition.
Ah oui, transition, oui, mais en même temps. Non, mais espace, c'était pas mal. Espèce d'espace.
T'as pas l'air tu convaincu. Te rappelles, j'avais mon idée là de phonophore, là, de transport de la voix.
Ouais, phonophore. Ouais, c'est pas mal, mais bon, ça fait un peu téléphone, et puis c'est un peu technique, je trouve.
Quelque chose de fin, quoi.
Ouais, il faut quelque chose de fin.
Espace Fine, tu... Espace Fine.
Espace Fine. Ouais, c'est pas mal, Espace Fine.
Tu sais, c'est en typographie.
Ouais. Bon, ça me plaît bien. Espace Fine.
Ça te plaît? T'es sûr?
Ouais. Espace Fine.
Non, regarde, Espace Fine.
Espace Fine.
Pascal, c'est des correspondances, c'est quoi?
Bah, pour nous, c'est surtout un moyen de commencer, parce que comme on ne savait pas trop avec quel auteur commencer cette nouvelle forme radiophonique, c'était pratique d'avoir les correspondances de Manosque, là, aux bonnes dates. Enfin, bon, les correspondances, c'est un festival littéraire qui existe depuis 16 ans, à Manosque, qui était à Grignan auparavant et qui s'est installé à Manosque après. Et ça occupe toute la ville, enfin tout le centre-ville. C'est des rencontres littéraires sur les places, au théâtre, dans des salles fermées, mais il y en a beaucoup sur les places. Et il y a des lectures, des rencontres croisées, il y a des performances, il y a des grandes lectures d'auteurs le soir. Et puis il y a des gens qui vont d'une place à l'autre pour assister aux rencontres d'auteurs. Mais il y en a aussi qui viennent uniquement se promener dans la rue parce qu'il y a des installations, ce qu'ils appellent des écritoires. Les écritoires, c'est des endroits où les gens peuvent écrire des lettres, des cartes postales à qui ils veulent, un parent, un amoureux, une amoureuse, je sais pas, la famille. Et c'est récupéré par le bureau des correspondances et c'est... acheminé, affranchi gratuitement, enfin c'est payé par les correspondances et voilà, les gens ils assistent du coup et ils participent du coup à un festival littéraire mais sans forcément écouter les écrivains, ils peuvent simplement écrire dans leur coin et ça fait des formats très différents en fait dans la ville, entre les lectures performances, les écritoires, hein, c'est un peu tout ça.
C'est un mélange des genres.
Ouais. C'est une manière de toucher et à l'écriture et à la présence de l'auteur et de la littérature dans la ville, mais dans un espace multiple, on va dire.
Qu'on pourrait traverser.
Ah oui, ça, on traverse dans tous les sens. Ouais. Et redis-moi là cette histoire d'espace Fine. Explique-moi.
Alors, espace, en fait, ça désigne. Déjà, c'est un mot qui est à la fois féminin et masculin. Et en fait, ça désignait alors une étendue, la dimension d'un lieu, mais aussi un intervalle, donc une durée, un laps de temps. Et en, plus précisément, en typographie, ça désigne une petite lamelle. Donc cette petite lamelle s'insérait entre un mot et un signe de ponctuation, comme le point virgule ou point d'exclamation. Et voilà, ça fait partie des outils qui font exister le blanc voilà, dans l'impression. Mmh. Et c'est une forme de retrait. Et je crois que pour nous, le retrait, c'est important. Parce que c'est une place, en fait, qu'on va laisser pour les auteurs, pour les textes.
Oui, pour les invités à venir occuper l'espace.
Voilà.
De différentes façons.
Oui. Donc, ça, l'espace fine, ça te convient toujours ouais.
Oui, on garde.
Garde.
Ouais, du coup, cet espace à occuper, bah, je vais te proposer, Esther, de prendre ton micro et puis d'aller découvrir Manosque, comme ça, avec ton micro, d'enregistrer des choses. Moi, j'y serai aussi de mon côté. Je vais enregistrer des interventions d'auteurs officiels sur les rencontres publiques annoncées dans le programme, etc. Puis toi, tu vas te balader autrement dans les interstices. Et je sais pas ce que tu vas faire avec ça.
Je vais peut-être trouver des espaces fines.
Des espaces fines. Bon, on va écouter ça.
Oui.
On va voir ce que ça va donner.
C'est une sorte de traversée de Manosque pris dans le temps des correspondances. Ça a été ramené à une journée du samedi 27 septembre 2014. C'est un carottage à travers à la fois les voies, des croisements, les espaces et puis les paroles d'écrivains. Donc ce tressage fait émerger des chants comme ça qui flottent à la fois dans la ville et puis dans les livres, notamment celui de la présence et de l'absence, la recherche d'une vérité intérieure qui pourrait être comme une plaisanterie. Et parfois la plaisanterie qui serait la réalité. Voilà, on tourne autour du réel, un peu en cercle. Et le cercle, c'est à la fois celui de la famille, c'est celui de l'héritage, c'est également celui de la rotondité de la terre, qui permet, dont on s'échappe pas, mais en fait, sous une forme un peu paradoxale, il y a aussi la notion de confins, de bout, d'extrême. De paysages extrêmes. Et cette rotondité, c'est aussi une façon de se dissoudre dans les paysages. On tourne en rond, mais on tourne en rond à la fois autour de la Terre, et puis aussi on tourne en rond dans une forme d'isolement ou d'enfermement. Et parfois c'est élargi à la notion d'insularité. Et parfois ça se resserre sur la thématique de la cellule, du confinement, de la solitude aussi. Alors une solitude qui est nécessaire à l'écriture, un isolement qui est aussi une forme d'isolation, qui est plus ou moins possible. Donc on est comme ça à chaque fois dans des tensions et qu'on ressent finalement en traversant la ville. Et notamment avec la présence de ces écritoires qui permettent un enfermement, mais tout à fait relatif. Donc on est dans toutes sortes de filtres qui peuvent autant être le filtre de celui qui traverse, en fait, qui vient voir des choses, qui choisit certains écrivains, certains spectacles, etc. Donc il a son propre filtre, et puis celui de l'écrivain qui est pris dans son travail d'écriture. Et je dirais, pour finir, que la question... peut-être cruciale, en tout cas pressante, pressante et cruciale, cruciale et pressante, et peut-être qui perce ou qui traverse tout, qui renverse tout sur son passage, c'est celle de l'adresse. À qui on s'adresse, vers qui on parle, qui on veut atteindre. C'est une question qui est à la fois qui fait partie de la notion même de correspondance et qui est complètement liée à l'écriture.
Nos boîtes qui sont ici, et c'est le festival qui se charge de les affranchir.
D'accord.
Parce que vous pouvez écrire n'importe où dans le monde, comme vous voulez.
D'accord.
Voilà. Et vous pouvez vous installer, alors vous avez des écritoires en fait un petit peu partout dans la ville.
Oui.
Je sais pas si vous avez vu la liste sur ce.
Oui, en fait, j'avais
vous voyez, vous avez une liste des commerçants sur lesquels vous pouvez trouver.
D'accord.
Et sinon, vous avez des écritoires monumentaux qui sont faits par des, un plastique qui s'appelle Jean Lautré.
Et là, vous avez des
Manosque. Samedi 27 septembre 2014.
Vous êtes bien installé, est-ce que vous entendez bien? Parce qu'on a eu des problèmes les premiers jours, ça va même au fond? Ça va au fond aussi? Ok, très bien. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui, en très belle compagnie, comme vous l'avez vu. Très heureuse et très honorée de vous accueillir, Taïe Selassie. Bienvenue, bienvenue à Manosque, votre première venue. On peut l'accueillir très chaleureusement. Avec nous sur scène, et c'est un grand plaisir aussi, Valentine Leys qui assurera la traduction. Bienvenue Valentine.
But it's true that I went to Sweden with the intention of making the sex lives of African girls longer, which is always a mistake. I think short stories are almost inevitable. I wish to be shorter, and certainly I've never succeeded in stopping the middle of the story with women and getting satisfactory.
Vous êtes journaliste? Non. Je suis absolument nulle pour tout ce qui est technologique.
C'est vrai?
Bien sûr. Je suis comme l'enfant virtuel d'un mammouth dégraissé et d'un dinosaure. Yes, indeed, in French in the text.
Comme ça, vraiment, vous n'aurez pas l'air.
My truth inside, or my interior truth, like a joke. Sometimes joke is reality.
Non. D'ailleurs, je crois que quelque part, c'est dit plus ou moins, ouais. Est-ce qu'il faut avoir vécu sa vie avant de l'écrire ou quelque chose comme ça? Non, ben, moi, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça. Enfin, il se trouve que j'ai écrit ce livre quand même à partir de...
C'est une sorte de réponse.
Ce livre, oui, mais enfin, c'en est un parmi les autres. Et... Oui, enfin, c'est ma réponse. C'est pas une réponse générale, quoi. À partir de là, il est nourri de ce personnage. Enfin, toutes les anecdotes sont plus ou moins des anecdotes qui me sont arrivées dans le cadre de cette activité un peu... social, on va dire, de l'écrivain qui ne fait pas qu'écrire, c'est-à-dire l'écrivain qui va à la rencontre de en librairie, qui va animer des ateliers d'écriture, qui va en résidence, on appelle ça des résidences d'auteurs, hein. Et là, il va en résidence comme je l'ai fait moi, sauf qu'il va dans une région où je ne suis jamais allé en résidence d'écrivain, et pour la bonne raison que j'y ai ma famille, donc... je pense là qu'ils m'ont jamais proposé d'ailleurs de... et puis en fait quand je suis dans ma famille en fait, je n'écris pas parce que ça serait mal enfin, parce que ça serait déplacé enfin s'isoler écrire ça suppose un peu de s'isoler quand même quoi. Donc du coup ça semblerait oui presque pas d'ailleurs quand je vais les voir je suis quasiment pas écrivain enfin je veux dire je suis pas c'est très dissocié. Enfin bon, bref. Et donc, j'ai voulu faire cette résidence d'auteur dans cette région-là.
On est entre la Nièvre et le Morvan.
Oui, ce qui en fait, c'est une façon de brouiller les pistes. Oui. Mais bon, je ne suis pas bon là-dedans parce que le village, je l'ai appelé Donzière, ne voulant pas qu'on reconnaisse Donzy. qui est la grande ville dans la périphérie de laquelle ma famille habite, enfin pour une partie en tout cas, mes parents, quoi. Bon. Et à chaque fois que je veux brouiller les pistes, finalement je rends tout encore plus lisible. Enfin,
je m'enfonce toujours dans les mêmes territoires ou dans le même terreau. Et c'est le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, donc le territoire paysan, en effet, ou agricole. J'aime bien dire agricole aussi. Et c'est le territoire de la solitude et de l'insularité. Je préfère le mot insulaire au mot clos. En fait, les personnages de la plupart de mes livres, et Joseph ne fait pas exception, sont d'abord enfermés dans leur propre peau, d'autant plus enfermés qu'ils sont, pour toutes sortes de raisons, souvent privés de mots, et que ce qui pourrait paraître très essentiel à dire, ils ne le disent pas parce qu'ils ne peuvent pas le dire, notamment le lien avec les autres, ça ne se dit jamais avec des mots. Donc Joseph est de cela, il fait partie de cette famille-là, donc enfermé à l'intérieur de sa peau et enfermé ensuite dans un cercle qui pour Joseph n'est pas vraiment le cercle familial puisque de famille il en avait mais n'en a plus et il n'en a pas fait. Mais si son cercle n'est pas familial, il est le cercle de ceux avec qui il vit, c'est-à-dire à l'intérieur de la ferme, le patron, la patronne et le fils. Il y a une sorte de structure comme ça en cercle concentrique. Lui serait au centre, dans sa peau, et cette peau-là de Joseph dans la ferme, et la ferme dans un monde d'autres fermes qui est en train de finir. Ça, c'est non seulement un monde insulaire, mais un monde qui a conscience d'être en train de finir. Et tout ça planté dans un pays dont j'espère la présence est très, très. Enfin, j'espère que la présence en est aussi dense et aussi intense que dans mes précédents livres, parce que c'est très essentiel pour moi que tout ça soit traversé par des saisons, par du vent, par la rivière, et que justement ce qui fait insularité, clôture et fermeture s'ouvre. Finalement, à ce qui tous nous traverse, le temps qu'il fait, le temps qui passe, l'air.
Nous sommes dans les jardins de Voguera. Il y a des fontaines intermittentes, lumineuses, et des petites cabines à l'allure de toilettes sèches. Mais qui n'en sont pas du tout. À l'intérieur, un tabouret, une petite plaquette en bois, une petite étagère, des feuilles à quatre blanches, un stylo, le programme des correspondances. Il y a aussi un petit porte-document en bois. Le tabouret est vissé au sol. La porte ferme par un aimant. Et me voilà dans l'écritoire. En guise de puits de lumière, il y a un parapluie transparent, style ombrelle. Et derrière, le ciel bleu, parfaitement bleu. Les écritoires mode d'emploi. Une centaine d'installations de lieux insolites vous invitent à l'écriture, à retrouver le bout du papier, le temps d'une pensée, d'un mot doux, d'une vacherie savamment tournée. Vous accueillant chacun dans une atmosphère, un décor particulier, les écritoires forment un parcours surprenant à travers Manosque et sa région. Ouvert à tous, ils offrent papier, stylo, enveloppe. Écrivez à vos proches et vos lointains, vos amis ou vos ennemis. Vos courriers seront affranchis par les correspondances. Écrivez à l'un des auteurs, comédiens ou artistes invités, nous ferons suivre. Écrivez aux correspondances. Faites-nous part de vos coups de cœur, vos coups de gueule. Écrivez une lettre à ceux à qui vous envoyez des mails. À ceux avec lesquels vous chattez sur Facebook. Remplacez le tweet ou le texto par une lettre manuscrite qui voyagera et prendra le temps d'arriver. Écrivez une lettre à un inconnu, une inconnue. Écrivez à vos anciens professeurs, à vos anciennes amours, à vos amours actuels, à vos enfants, à vos parents, à vos anciens correspondants étrangers de collège, aux amis oubliés. Écrivez en toute liberté, point d'exclamation. Toutes vos lettres seront affranchies par les correspondances, puis expédiées et distribuées par la poste et ses facteurs, etc. Ensuite, les 6 règles d'or pour remplir une adresse. Je n'ai actuellement accès à aucune enveloppe. Mais je dois avoir une cinquantaine de feuilles A4 et un stylo de la Société Générale. Qu'est-ce que je pourrais bien écrire ? Je me rappelle que je suis gauchère. Je pense que je vais écrire un petit texte en hommage à Isabelle Bonaluciani, qui est justement... écrit des textes sur son blog qu'elle relaie en fait par Facebook. Et il y a une question d'adresse en fait dans la plupart de ses textes qui commence par « Cher toi ». Le « Cher toi » est au masculin. Ici, j'écris au féminin « Cher toi » avec un stylo qui a du mal à démarrer. Peut-être parce qu'il y a de la poussière sur la bille. Cher toi, aujourd'hui, ce n'est pas fluide. Malgré tout ce qui pisse à côté et s'arrête. Et reprend. Et s'arrête. Aujourd'hui, j'ai dû interrompre mon trajet. Non. À cause des pensées. Vers toi. Mais parce que la lumière ne me renvoyait plus. Le passage d'un seuil à un autre. Du coup, j'ai bifurqué. Figure-toi. J'ai bifurqué. Je me retrouve là. Dans cette cabine de douche. La douche dehors. Moi dedans, sans eau, même salée, pas étanche, je veux dire, pas très étanche. Ce soir, je ferai demi-tour vers toi. Et donc je suis repassée le lendemain, le dimanche soir, et les correspondances étaient finies, les écritoires étaient cadenassés. Et puis en traversant la place de l'Hôtel de Ville, au niveau des exercices de poésie pratique de François Maton, donc qui sont sous forme de grandes pages comme un livre ouvert, et puis qui est à hauteur d'écritoire. Donc une planche entre chaque page, donc ça fait des petites cellules. Et ben, j'ai trouvé un petit tas comme ça de cartes postales et puis de deux lettres qui n'étaient pas timbrées, donc tout à fait destinées à être timbrées par la poste lors des correspondances, sauf que là, les correspondances, et ben, c'était fini, il n'y a plus personne. Plus personne dans les rues, plus d'écrivains en parole, plus de public attentif. Donc la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de timbrer et d'envoyer. Et puis j'ai pensé à Espace Fine, j'ai pensé à toi, Pascal. Je me suis dit, voilà, est-ce qu'on pourrait pas les regarder ensemble? Et surtout qu'il y avait une des deux enveloppes, dessus c'était marqué « à celui ou celle qui la lira ». J'ai eu du mal à regarder en fait les cartes postales, à les lire. Je me suis dit, c'est un peu indiscret.
Bah oui.
Qu'est-ce que t'en penses?
C'est un peu indiscret, mais en même temps, on a envie, évidemment. Bon, il y en a, c'est carrément des cartes touristiques, ou alors c'est les cartes avec l'affiche des correspondances. Puis il y en a d'autres qui sont marrantes. Là, mais...
T'es très pudique, parce que tu regardes que le recto.
Oui, je regarde que le recto.
T'oses pas, pas retourner. Hein, ouais.
Alors. Ma chère grande sœur, être loin de toi m'attriste, bien que je te porte dans mon cœur. Et notre lieu de flûtiste. Ah. C'est un peu versifié. Bah, je lis pas tout. Parce que peut-être qu'on va les envoyer quand même après ces cartes. Ou tu crois qu'elles sont là juste pour nous?
Je crois qu'il faut les envoyer quand même.
Il faut les envoyer. Hein. Ouais, je pense aussi. Celle-là, c'est quoi? C'est la même personne, tu crois? C'est la même écriture, on dirait.
Oui, c'est une écriture sage.
Bonjour à vous tous, c'est juste pour vous dire que même si je ne suis pas avec vous ce week-end, je ne vous oublie pas et je pense très fort à vous.
Bonjour Pépé, bonjour Mémé. Je vous envoie une petite carte pour vous prouver que je pense à vous.
Là, il y a un gros cœur, il y a écrit « Je t'aime » tout simplement. Bon, ça c'est direct. J'aime bien ça avec Snoopy à Manosque. C'est un dessin qui a été fait... spécialement pour les correspondances. C'est François Maton. Et ces enveloppes, tu crois qu'il faut les ouvrir?
Alors, il y a deux enveloppes. Il y a une qui est adressée à Mademoiselle Dubois, à Marseille.
Bon, celle-là, je pense que...
On va l'envoyer sans l'ouvrir.
Il faut l'envoyer sans l'ouvrir. Par contre, celle-là, à toi qui liras cette lettre, ça, évidemment, on est obligé de l'ouvrir. Enfin, on se sent obligé de l'ouvrir.
On y va.
Si tu... Vas-y.
Je le fais.
Vas-y.
Alors, c'est une lettre. Ce n'est pas une carte postale. À toi qui liras cette lettre. 27 septembre 2014, chambre dans un lieu indéterminé. On voulait un titre, mais il était nul, alors on l'a effacé, et c'est effacé au Tippex. Bonjour à toi, lecteur de cette lettre. Elle ne t'est pas forcément destinée, mais c'est toi qui l'as ouverte. Il y a 50% de chances que tu sois du sexe masculin, et 50% de chances que tu sois du sexe féminin, à peu près. Peut-être es-tu grande, grand, peut-être petit, petite, blond, brune, rousse, chauve, poivre et sel, barbu, moustachu, femme comprise. Grand front, petit nez, bouche pulpeuse ou lèvres minces, intelligente, imbécile, rêveur, pessimiste, joyeux, bigleux ou pas. Yeux verts, bleus, gris, marron, noir, perçant, froid, rassurant, autant de combinaisons pour être un homme. Une seule façon d'être toi. Signé C et C'. C'est une lettre écrite à quatre mains.
C'est et c'est prime. Ah, c'est drôle. C'est prime. T'es sûr que c'est pas toi qui l'as écrite cette lettre?
Je t'assure que non.
Bah quand même, on voulait un titre, mais il était mal, alors on l'a effacé.
Voilà, on l'a trouvé le titre.
Nous, on l'a trouvé le titre, non, c'est pas nous. Mais quelque chose qui est peut-être du sexe masculin ou peut-être du sexe féminin, c'est étrange. Elle est bien cette lettre.
Qu'est-ce qu'on fait? On la renvoie? On la dépose?
Eh ben, elle n'a pas de correspondant. Elle est à nous. Elle est à ceux qui nous ont écoutés, peut-être. Oh. T'as bien fait de la ramasser. Par contre, les autres, je suis pas content de toi, hein, franchement. Allez, voler ces lettres qui ont toutes des adresses. La Ciotat, Paris...
J'ai honte.
Ouais. On a rien dévoilé en même temps. Hein. Berlétan. Aix-en-Provence.
Mais je t'aime, je pense à toi...
Ben voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire, t'achètes des timbres.
Carte noire et blanche. Cette carte coûte 2 euros. Ceci est une carte. Je suis comme les termites, je vis chez l'habitant. Carte postale. Happy New Year. En photo, ça sent bon. Un sourire au coin des yeux. Carte postale verticale. Tu disloques, mon pauvre. Carte de rupture. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Arrête de courir, la terre est ronde. Et si le corbeau avait en son bec un maroilles? J'aime pas écrire. Carte de vœux. Je travaille à mi-temps. Cowboy le matin, princesse l'après-midi. Je n'ai pas dit mon dernier... Happy New Year, bonne année. Nous détenons ton conchonnet. Aucun mal ne lui a été fait. Nous te le rendrons si tu arrêtes de nous escagasser avec ta musique de barbare à l'heure de la sieste.
Vous êtes journaliste?
Non.
Vous n'en pouvez plus d'être, vous?
Il songe qu'il pourrait même retourner la situation à son avantage, faire l'inverse de ce que fait le baron de Charlus pour qu'on croie qu'il est un homme infâme, ne pas tenter de gommer son côté hétérophobe, comme l'avait qualifié l'un de ses amis, vieille sans l'ombre d'un doute, lui, qui avait toujours tenté de séduire. Mais au contraire, le marquer pleinement, être finalement, ironie de l'histoire, un hétérosexuel planqué, et tenter sa première sortie du placard dans un instant, face à cette femme si belle qui vient de dire « c'est bon, merci » en arrêtant sa commune.
Merci pour cette lecture. On voit l'exercice du livre en effet de fictionnalisation et d'aller-retour entre la fiction. Est-ce que d'ailleurs ce viseur était un viseur que vous avez filmé ou c'est un viseur complètement fantasmé?
Et tout à l'heure, la personne à qui qui a compris que. Voilà, j'ai utilisé une phrase qui ne me convient pas. J'ai dit que j'avais fini ma carrière dans l'éducation nationale. Et cet homme-là, que je ne connaissais, comme on dit, ni Adam ni Ève, d'un âge certain ou d'un certain âge, m'a dit « On n'a jamais fini sa carrière avec l'éducation nationale. On change seulement d'amant. » Pam, 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 pam. Si j'étais plus jeune, j'aurais dit énorme. J'ai juste dit « Génial, vous êtes génial. C'est de vous ?» Alors, il a dit des choses. En plus, comme c'est un homme que j'ai moins 30% dans les sons graves, j'y peux pas très bien entendu, mais moins 30% dans les sons graves, c'est génétique. Donc, c'est mon père, donc ça n'a rien à voir avec les acouphènes. C'est pas les acouphènes qui me gênent pour entendre, en fait. Mmh. Et il a fini par dire que oui, c'était de lui. Mmh. Bah, j'ai répété, c'est génial. Je sais que vous n'allez pas me vouloir sur vos genoux, mais je vais m'asseoir à votre droite ou à votre gauche, comme vous voulez. C'est ce que j'ai fait. Et je suis sortie 5 minutes avant la fin, en disant à la personne qui mangeait un grand sandwich que quelquefois la vérité vous sautait au visage et que parfois les 5 dernières minutes, mais il avait certainement été trop jeune pour les connaître, il m'a dit oui. J'ai dit, vous êtes né en 80, il a dit non en 87, que parfois les 5 dernières minutes sont inutiles. Et après j'ai dit, mais qui suis pour dire ça? Et j'ai vu une personne qui me donnait l'impression de prendre en photo un écran. Donc je lui ai dit, excusez-moi, me permettez-vous de vous demander rapidement, parce que je vois que vous êtes pressé, qui vous êtes et pourquoi vous avez pris cet écran en photo? La personne m'a répondu qu'il avait filmé. J'ai dit, ah bon? Et il m'a dit, je suis le réalisateur. Oh, j'ai dit, non. Enfin, j'ai pas, enfin vous savez, quand on dit non, quand on veut pas croire quelque chose qui est trop merveilleux. Je repose ma question parce que je n'y crois pas. Donc, c'est-à-dire que ceci est un micro?
C'est un micro
qui permet d'enregistrer la parole d'une personne?
Oui.
Ou de plusieurs? Mais
vous n'en pouvez plus d'être, vous?
La première idée, c'était,
c'était qu'un certain nombre de gens disparaissent tous les ans. Ils disparaissent, ils ne sont pas kidnappés, ils ne sont pas tués. Ils disparaissent tout simplement parce qu'ils veulent revivre ailleurs une autre vie. C'est une sorte de suicide social. Alors la deuxième idée, c'était que ça pouvait être le cas de quelqu'un d'extrêmement connu. Évidemment, quand ces deux idées se croisent, Elvis est une idée qui s'impose presque. Et notamment parce qu'en fait, Elvis, comme vous le savez, n'est pas mort en 1977. Non, je plaisante. Il a disparu en 1977, mais ses fans n'ont pas accepté cette idée. Et donc, il y a eu véritablement toute une série de manifestations autour de la non-mort d'Elvis Presley. Et d'ailleurs, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous regardez sur Internet, vous tapez « Elvis not dead », vous avez, je ne sais pas, des millions d'occurrences, photos à l'appui. Donc, évidemment, il y a un petit jeu là-dessus sur cette idée qu'effectivement, il ne serait pas mort, mais il aurait réussi à fuir et à revivre ailleurs, à un autre endroit qui, dans ma fiction...
À part pour Love Hotel, le roman précédent, jusque-là, j'écrivais des romans à la troisième personne. Et c'était toujours des romans dans lesquels on était trois. Alors on était plus de trois parce qu'il y avait plusieurs personnages, mais on était essentiellement trois, le personnage principal et tous les personnages qui pouvaient graviter autour de lui, le lecteur et moi. C'est-à-dire que je me fais du roman cette idée que c'est une petite communauté à l'intérieur de laquelle vous et moi on se penche sur le personnage et on revit nos expériences à travers lui. Et cette chose-là que je pense vous rejouez pour la lecture de chaque roman et que je rejoue moi comme lectrice aussi à la lecture de chaque roman, j'ai besoin qu'elle soit vraiment inscrite dans les romans que j'écris. Et donc, je m'adresse beaucoup à mes lecteurs, je les fais participer, je sollicite leur mémoire, je leur propose de se souvenir de telle ou telle expérience qu'ils ont pu vivre et qui me paraît proche de celle du personnage. Ou parfois aussi, il m'arrivait de raconter une expérience personnelle, d'une manière, juste pour équilibrer la demande que je faisais au lecteur de se souvenir aussi de son côté de ses propres expériences. Alors du coup là, comme c'est un roman à la première personne, j'ai plus de place moi pour intervenir, pour apparaître. Je peux plus apparaître. Il arrivait que le personnage m'appelle Christine, par exemple dans L'Origine de l'Homme, ou que moi je dise, que je mette en scène une petite séquence dans laquelle je m'appelais Christine. Tout ça, ça devient complètement impossible quand c'est un personnage de fiction qui raconte l'histoire. Mais donc pour moi, ça a été très amusant aussi d'essayer de créer cette voix, de faire en sorte que ce soit vraiment la voix de ce personnage, mais aussi que ce soit une voix un peu scintillante dans laquelle aussi on m'entende, dans laquelle on entende aussi la voix des romans précédents. Et donc c'est pour ça aussi que ce Français qui raconte ses soirées dans le bar de Moses à Cannon Beach, pendant lesquelles Colter, Shannon, Harry Dean et quelques autres lui racontent soir après soir leur histoire, et de telle sorte qu'il se sent de plus en plus attaché à ces personnages et en même temps il sent qu'une menace continue de planer. Pour moi c'était très jubilatoire d'essayer d'inventer cette voie de fiction tout en lui donnant aussi cette attention au lecteur qui était la mienne jusque-là. Et du coup c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui apprend le plaisir de raconter.
Vous n'en pouvez plus d'être vous en avez plus cassé d'être humilié, d'être limité, que net que ça. Vous voulez passer la vitesse supérieure? Très bien, nous avons la solution. Commencez par fermer les yeux, calmez-vous, prenez votre temps. Au bout d'un moment, une fois le calme établi, essayez de saisir ce que vous êtes, ce que vous êtes là, et calme, vous n'êtes personne en particulier. Êtes-vous un homme, une femme? Vous sentez-vous être une mère, une infirmière, une avocate, un joueur de baseball, un marocain, une vietnamienne, un homme quelconque. Avez-vous un sexe, vraiment, une histoire? Voyez que toutes ces informations flottent et se bousculent au sein de la totalité que vous êtes. Aucune d'elles n'est vous. Vous n'êtes réductible à aucune d'elles. En réalité, vous êtes infiniment malléable, joué de cette plasticité.
Ce qui m'intéressait dans l'idée de distance ou de mise à l'écart ou de marginalisation d'individus par d'autres individus, c'était comment ceux qui se retrouvent dominés résistent à la domination ou au contraire décident à un moment donné de l'intérioriser et de considérer qu'effectivement c'est une forme de rapport à la vie que de considérer que la réalité est la vérité des choses. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, notamment à travers l'installation, dès les premières lignes de ce roman, d'une maison, une maison de pierre, qui est assez mystérieuse, qui est assez peu décrite, qui existe simplement par sa matérialité et par le fait qu'elle contient en son sein, dans la salle commune, dans la cuisine, dans la cour intérieure, dans les chambres des étages, des femmes qui ont été placées là sur décision d'un homme qui la plupart du temps est un frère, un père, un beau-père, un époux, un fils. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette mise à l'écart d'une certaine humanité qui se retrouve être ici une humanité féminine, donc une espèce de communauté de femmes qui se retrouvent entre elles et qui vont devoir vivre au quotidien ensemble. Et il était donc question d'interroger effectivement le sentiment d'enfermement, mais j'ai toujours un problème avec le mot enfermement qui est un mot qui dit des choses que moi je ne veux pas dire. Donc le mot enfermement, je le prononce là, mais à regret presque, parce qu'en vérité il n'est pas question d'enfermement, il est question de libération, il est question de liberté, il est question de prise en charge de chaque individu, de son propre destin, et non plus de ce processus où on se définit comme héritier d'une communauté, héritier de nos ancêtres, de nos parents, et où on attendrait quelque part que les codes, que les croyances, que les valeurs nous soient données.
Parmi les choses invisibles qui nous gouvernent, il y a peut-être quelque chose à quoi je crois un peu quand même, je l'avoue, c'est la psychogénéalogie, c'est-à-dire le fait qu'on a en soi les mémoires de nos ancêtres, enfin quelque chose de la mémoire de nos ancêtres. Il se trouve que j'ai du côté de maternel des navigateurs, du côté paternel des bergers, donc des gens qui ont été toute leur vie confrontés à l'immensité. Et il se trouve que les lieux, les bouts du monde m'attirent. La notion de bout du monde, de confins m'attire, même si c'est une fiction, encore une fois, parce qu'on ne se raconte que des fictions. Sur une planète ronde, il n'y a pas de bout du monde, bien entendu. Ou alors il est partout, il est là, voilà. Aussi bien que le centre, d'ailleurs. Mais la notion de bout du monde, avec ce qu'on y met derrière, m'attire énormément, ce qui fait que dans les endroits où j'ai voyagé, il est vrai que c'est plutôt les zones arctiques, les zones, le sud de l'Amérique du Sud, le nord de la Sibérie, l'extrême-orient russe, l'extrême-ouest, les constructions mentales que l'on peut échafauder à partir de ça, à partir de ces notions d'extrême, si fictives soient-elles, sont pour moi de puissants moteurs, pas uniquement d'écriture, aussi de manière de me constituer, quoi. Voilà, je suis vraiment très poussé vers ces endroits-là. En même temps que le confinement, il y a une notion de confinement qui aussi m'attire énormément. Je suis très attiré, je le confesse, par les lieux clos, fermés, les grottes, les cellules, les monastères. Et là aussi, j'y vois une affaire de psychogénéalogie, puisque les bergers, ils sont dans leur cabane minuscule, dans quoi ils sont confinés. Puis dès qu'ils en sortent, ils sont face à l'immensité de la montagne devant eux. Les marins, ils sont dans la cabine de leur goélette. Et puis quand ils en sortent, ils ont l'océan infini devant eux. Et je me dis que cet aller-retour permanent qui trace ma vie depuis longtemps entre le confin et le confinement, c'est ce qui trace aussi l'équilibre de mes livres. Et les paysages, il faudrait être difficile pour ne pas être absolument abasourdi par la splendeur des paysages patagoniens. Voilà. N'importe qui, même quelqu'un qui, a priori, plutôt urbain, n'aime pas trop la nature, et j'en connais, et c'est tout à fait respectable. Je pense que si on le place au milieu de l'immensité de la côte chilienne du sud de la Patagonie, il va être absolument soufflé. C'est prodigieux, c'est magnifique, je ne sais pas comment le dire sans trémolo dans la voix. Mais en tout cas, ce sont des endroits qui effectivement restituent des endroits qui ne sont pas faits pour nous. Vous savez, comme dit Kant, quoi. Enfin, c'est pas le beau, c'est le sublime, quoi. Voilà. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu trop. C'est trop immense, c'est trop froid, c'est trop abrupt, c'est trop tout, quoi. Voilà. Et l'humain qui se dilue dans le paysage.
François Maton, exercice de poésie pratique numéro 2. Nous vivons à partir d'une illusion, celle d'être une personne séparée de tout. C'est frustrant, c'est épuisant, je ne vous le fais pas dire. Pourtant, il suffit d'être très attentif à ce que nous percevons réellement dans l'instant pour faire tomber cette illusion en un claquement de doigts. Et remettre alors magiquement les choses à leur juste place. Joie. Pour cela, avant de vous tourner vers le monde comme vous le faites d'ordinaire, tournez-vous donc cette fois vers vous. Ou, plus exactement, tournez-vous vers ce qui se passe ici, du côté de ce qui voit plutôt que du côté de ce qui est vu. Notez qu'il n'y a personne de ce côté-ci. En lieu et place d'un moi misérable, vous ne trouvez qu'une grande ouverture donnant sur le spectacle du monde. Une sorte d'espace d'accueil, vide, silencieux, très vaste, merveille. Tel un saumon déterminé remontant la rivière, venez de remonter le sens ordinaire de la perception pour arriver à son seuil, sa source. Voyez comme à partir de là, votre perception se libère, n'étant plus entravée par l'obsession d'un moi illusoire au premier plan, elle peut enfin s'étendre dans toutes les directions. Observez comme vos sens se réveillent quand vous n'êtes plus là pour les étouffer. Votre œil n'a plus rien à envier à celui de l'aigle royal, votre odorat vaut celui des chiens truffiers. Votre oui peut s'aligner sur celle de la chouette effraie. Votre toucher est aussi fin que celui des grands primates. Bref, vous voilà enfin équipé pour une vie de poète digne de ce nom.
J'arrête pas.
Je vois. Il y a ceux qui travaillent. Hein.
Ça va. Merci d'avoir
bon. Merci. Ça va, tu veux. Je veux dire que tu es. Tout le monde travaille, oui, bien sûr.
Ces deux garçons qui commettent un crime, évidemment, du côté conscient, ils ont cette chose de.
de citer le hasard comme force directrice, et en même temps ils ont cet espoir un peu plus souterrain que leur action pète à la gueule d'une société qui les ennuie, et ça n'arrive jamais. C'est ça qui les amène sur le point de la confession à plusieurs reprises, puisque les adultes échouent complètement à voir ce qui s'est passé. Et même quand il frôle la confession, tout le monde reste aveugle. C'est la même chose avec le grand-père qui a participé, on ne sait pas comment, de près ou de loin, à une chose qui est, voilà, un crime contre l'humanité, le plus gros, la plus grosse déception sur la nature humaine qui ait pu arriver au XXe siècle. C'est la même chose avec Eichmann. Donc ces choses dont on imagine qu'elles devraient avoir un impact absolument énorme, que tout le monde devrait crier à l'assassinat, au scandale, à la blessure totale. Et en fait, non, tout le monde continue à vivre, tout le monde continue à faire un peu de l'épicerie. Et même l'histoire d'amour a ça aussi, finalement, puisque cet amour qui devrait être un miracle entre Zoé et Sacha, cet amour qui devrait être un miracle perpétuellement renouvelé, devient une sorte, voilà, comme elle dit, de repas de Noël en famille. Donc il y a, un poids de la banalité et un aveuglement de la banalité qui est présent dans toutes les trajectoires.
Au bout de quelques heures, au-delà du mélange des genres, des gens, au-delà du petit pastis entre les gens et les genres, de voir autant de personnes écrire des cartes postales, de voir autant de personnes adresser, écrire la correspondance, glisser les cartes postales dans des boîtes aux lettres, mobiles ou immobiles. Ça touche. Au bout de quelques heures, ça touche. À 15h30, ça prend. À travers la vitre comme assourdissante, même les rires, même les applaudissements, tous ces profils happés. C'est la question ici pour l'espace, un espace rétréci, puis gonflé, puis rétréci, fine. C'est la question pour l'espace d'absorber, d'être occupé. Ne peut faire un pas sans sourire, faire un signe de la main, sans rejoindre. S'éloigner, rompre, rejoindre. Silhouette casquée, sans fil, livre en main, un livre pris comme seule épaisseur et non page reliée entre elles, juste son épaisseur est utile, devient boîte, toujours ouvert, boîte à la même page, ouvert et dedans la lumière, des pixels. Ils ne sont pas là, ce sont des femmes. Elles ne sont pas là, elles ont disparu, elles sont absentes, elles flottent, des creux dans le corps, en attente, elles traversent les foules, légèrement au-dessus du sol. Légèrement au-dessus du sol. Ici aussi, besoin d'isolement, pour écrire. Mais écrire dans l'espace public, au vu et au su. Légèrement au-dessus du sol, ici, tout le monde flotte un peu, à cause des histoires, mais pas que à cause des histoires, toutes ces trajectoires ont 4 jours pour circuler et qui, le troisième, prennent, ont pris, ne prennent pas, se croisent, prennent trop, s'accrochent, s'en mêlent, se nouent. Une forme de fuite. Une forme de furie pour les histoires. Sur les histoires. Quelque chose de furieux, une colère à se sentir dans cette foule avec ces histoires. Trouver une technique d'isolement par isolation, par le casque, par la vitre, par l'écritoire, par le livre, par... L'isolement n'est jamais complet. Ça passe à travers la paroi en contreplaqué, ça passe à travers le casque, ça passe par la vitre, ça passe à travers l'objectif. L'objectif. Disparaître. Devenir les points d'acuité. Pour en finir avec le réel.
ont été entendus par ordre d'apparition. Serge Joncourt, parlant de ce roman, l'écrivain national aux éditions Flammarion. Marie-Hélène Lafont, évoquant son livre « Joseph », paru chez Buchet-Chastel. Caroline de Mulder, pour son roman « Bye bye Elvis », paru chez Actes Sud. Christine Montalbetti, qui commentait son roman « Plus rien que les vagues et le vent » chez POL Éditeur. Kaoutar Archie, qui parlait de son roman « À l'origine, notre père obscur », paru chez Actes Sud. Christian Garcin, qui évoquait son dernier livre « Selon Vincent », publié chez Stock. Et enfin, Alice Zeniter, parlant du film de Raphaël Neal, « Fever », tiré du roman du même nom, écrit par Leslie Kaplan, et paru chez POL.
Merci à Pascal,
Léa Hermenot,
Isabelle Bonalucciani,
Maya Michalon,
Corentin Ouzé de Bablart,
Taïe Selassie,
Clara,
l'inconnu de la place de l'Hôtel de Ville,
Léa,
Marie Bouillot,
Mathieu Riboulet,
Léa Hermenot,
Christophe,
l'équipe des correspondances,
la librairie Le Petit Pois,
tous les bénévoles et les étudiants de l'IUT Métiers du Livre. Vous pouvez trouver l'ensemble des références concernant ces ouvrages sur le site des Rois des Grenouilles et la page de l'émission en cours de création. Voilà, c'est la fin de cette première expérimentale Espace Fine qui doit beaucoup à Esther Salmona. Je vous convie à écouter la prochaine expérimentation lundi 10 novembre avec l'écrivain suédois Håkan Lindqvist. Merci, à bientôt.